Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello les amis, ici Pauline Aignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, leurs habitudes alimentaires aussi ou sportives, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le Gratin Clémentine Alzial, CEO de la délicieuse marque de chocolat gastronomique Valrhona. Si l'épisode vous a plu d'ailleurs ou vous a appris quelque chose, pourquoi pas, eh bien n'hésitez pas à lui dire sur ses réseaux sociaux personnels et en particulier sur LinkedIn ou Instagram, qui sont les deux médias de prédilection de Clémentine. Je vous mets tout ça et tous les liens dans les notes du podcast sur le blog du Gratin. Vous allez voir, Clémentine est un vrai tourbillon d'énergie et de positivisme. Ingénieure de formation, rien ne la prédestinait pourtant à se tourner vers le monde de la gastronomie. Pourtant, cette passionnée de relationnel trouve son premier emploi, un peu par hasard, chez Valrhona, donc en tant que stagiaire. Et y restera jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte, à l'heure actuelle, cette fidélité est suffisamment rare pour être pointée du doigt. Donc Clémentine commence au service R&D du chocolatier et découvre quelques années plus tard les joies du commerce. Elle deviendra très rapidement chargée des grands comptes clients, puis prendra la tête de la direction commerciale de Valrhona en Espagne, alors qu'elle ne parle pas un mot d'espagnol. Incroyable. Fonceuse, Clémentine sait saisir sa chance et ne recule devant rien si le sujet l'intéresse. Après 10 ans chez Valrhona, Clémentine part faire un MBA pour, dit-elle, asseoir ses légitimités en business, puis revient par la grande porte dans le même groupe, cette fois à la tête du chocolatier Weiss, alors dans la tourmente. Après avoir remis l'entreprise au carré, sans jeu de mots évidemment, Clémentine vit la consécration et devient CEO de Valrhona, une marque créée en 1922 et regroupant plus de 1000 collaborateurs dans le monde. Pas mal, vous trouvez pas ? Eh bien, dans cet épisode, Clémentine nous parle de son parcours, de leadership, de sa vision d'un monde qui fait plus qu'il ne dit. On a largement évoqué le sujet de l'engagement aussi, à nos niveaux personnels à tous, mais aussi dans le cadre de la responsabilité d'entreprise. Une démarche instaurée chez Valrhona depuis des années et matérialisée par l'obtention du label B Corp, qui croit à l'ambition de faire du business une force positive pour le monde. Une vision que je partage bien sûr et merveilleusement bien incarnée par Clémentine. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Clémentine Alzial.
Salut Clémentine, bienvenue sur le Gratin.
Bonjour Pauline.
Eh ben merci de m'avoir retrouvée chez moi en plus, ça me fait plaisir, je t'ai fait monter mes nombreux escaliers. Je voulais commencer, si ça te va Clémentine, par un fun fact que j'ai découvert en faisant mes petites recherches sur toi, parce que j'ai une équipe de recherche maintenant qui m'aide, et du coup je rentre dans le détail. Et alors je suis tombée sur quelque chose, tu vas me dire si c'est vrai. Donc tu es DG aujourd'hui de Valrhona, et c'est une des plus grandes marques de chocolat, pour les personnes qui ne connaissent pas, de chocolat gastronomique, on peut le dire, au monde, et pourtant, si je ne me trompe pas, tu n'as pas de bureau. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas de bureau. J'en ai pas depuis que je suis arrivée chez Valrhona. Pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de monde, peu de place, et qu'en fait, je suis pas très sédentaire. Et j'aime pas être assise à un bureau, et j'aime bien changer d'environnement. Et du coup, je trouve que ne pas avoir de bureau, c'est aussi une autre façon de rencontrer les gens, parce que du coup, au lieu que ce soit eux qui viennent à moi, comme c'est souvent le cas quand on commence à avoir un rôle un petit peu dans l'entreprise, et ben du coup, c'est moi qui vais vers eux. Donc du coup j'aime bien ça. Quand il fait beau en plus, bah du coup je travaille dehors à la cantine, sur les tables hautes, voilà, et vu que chez nous il fait beau, bah je suis bien, et voilà. Après bon, il y a le revers de la médaille, c'est que du coup les gens aussi ne savent pas toujours où te trouver.
Ça.
Après j'ai toujours mon téléphone et les gens savent qu'il suffit de m'envoyer un message et que je suis facile à joindre.
C'est hyper intéressant, je trouve, parce que, bon, en plus, là, après post-confinement et tout ça, je pense que clairement, les usages du monde du travail sont quand même clairement en train d'évoluer. Alors là, c'était la première fois, je pense, que j'entendais quelqu'un qui n'avait pas de bureau, donc je trouve ça très cool, parce que très libéré. Et juste pour revenir dessus, concrètement, ça veut dire que tu bouges tous les jours, quoi. Tu te mets, tu vois, tu vas dans la cuisine, dans le machin. Enfin, je veux dire, j'ai un peu de mal quand même à visualiser. C'est.
En fait, bon, déjà. Hélas, on a quand même beaucoup de réunions. Hein.
Ouais. Ton bureau, c'est un peu la salle des réunions.
Mais globalement, non, j'arrive et en fait, suivant les sujets que j'ai à traiter dans la journée, je m'installe à droite ou à gauche en fonction des gens que j'ai besoin de voir. Ouais. Après, si j'ai besoin de m'isoler, je pars aussi du principe qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent en télétravail, qui sont en déplacement aussi, les commerciaux, etc. Et donc, je prends le premier bureau libre et je m'y installe. Et du coup, j'avoue que j'ai fait un peu évoluer aussi les choses chez Valrhona en faisant installer un peu partout des manches debout. Là, on vient juste d'installer des casiers en bas, parce que moi, je disais, putain, c'est la galère, quoi, quand t'es toujours avec toutes tes affaires, ton manteau, ton truc. Bon, ben, au moins, on a mis des casiers comme ça quand t'arrives. Et par cet esprit-là aussi, j'ai envie aussi d'encourager les gens, justement, à avoir un petit peu ce côté volant, qui, je trouve, donne une certaine liberté.
Tu vois justement une évolution du coup dans les mentalités, même avec quelque chose d'aussi simple d'une certaine manière, parce qu'on dit souvent que la culture d'entreprise, c'est justement des petites actions comme ça, des petites touches, et puis notamment c'est soit les fondateurs, soit les dirigeants qui du coup les instaurent, tu vois, d'une certaine manière. Et je me posais la question quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais finalement, quel a été l'impact? Est-ce qu'il y en a un, tu vois, chez Valrhona, au-delà de toi, te donner la liberté, est-ce que tu vois les gens, du coup ça donne une image peut-être de proximité, enfin, c'est peut-être indiscret hein, comme question, mais je me suis posé la question parce que je trouvais ça assez cool. Je me suis posé la question pour moi-même, pour être honnête. Et je me suis demandé du coup, voilà, si ça avait pu avoir un impact.
Ouais, je pense que tu as trouvé le bon mot. Je trouve que ça donne une proximité. En fait, j'ai vraiment cette sensation-là. Après, il y a d'autres choses aussi, c'est que tout le monde me tutoie. Je suis rentrée stagiaire chez Valrhona. Donc du coup, je connais beaucoup de gens, aussi bien en production que dans tous les services. Et quand je suis revenue chez Valrhona en tant que directrice, il y a des gens, ils m'ont dit « Mais Clémentine, du coup, je fais comment ? Je te tutoie encore ?» Bah ouais, pourquoi ? C'était quoi l'idée sinon ? Et en fait, enfin voilà. Et donc du coup, ça, parce que comme tu dis, c'est plutôt une somme de petites choses. Ça crée beaucoup de proximité et j'ai l'impression que les gens se sentent à l'aise avec moi, quoi.
Voilà. Bon, et c'est hyper intéressant, on va en reparler, parce que moi, le leadership, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et comme il y en a plein de sortes différentes, et donc des leaderships plus ou moins de proximité, on va en reparler. Mais avant ça, je voulais revenir, du coup, sur le début de la carrière, évidemment, donc qui est une carrière très chocolatée, je crois qu'on peut le dire, qui est assez impressionnant. Si on essaie de prendre énormément de recul, tu vas voir, je vais partir un peu dans tous les sens, hein, mais c'est normal, je voulais te demander, dans le cadre un peu de toutes tes expériences professionnelles, quelles avaient été pour toi les plus grandes étapes, les étapes les plus clés, peut-être les plus formatrices de ta carrière, et puis pourquoi, enfin globalement, quels enseignements t'en avais tiré?
Globalement, je pense que la première étape, c'est que je suis d'une formation ingénieur, mais j'ai jamais été faite pour ça, quoi. Donc en fait, hélas, particulièrement peut-être en France, on est très formaté. Donc quand t'as un métier d'ingénieur, tu rentres dans un boulot d'ingénieur. Quand t'as une formation d'ingénieur, tu rentres forcément dans un stage d'ingénieur. Donc je suis rentrée comme ingénieur, et en fait, j'étais pas faite pour ça, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est le relationnel, c'est les gens, c'est transmettre ma passion, etc. Et du coup, j'ai rapidement basculé au commerce. Et ça, je pense que ça a été une première grande étape pour moi, de passer au commerce et de rencontrer des gens. Je crois que mon premier client, c'était Patrick Roger, quoi. Donc, si tu veux, quand tu connais Patrick Roger, ses créations, ses chocolats, voilà, tu tombes dans un monde et tu dis, voilà, c'était plutôt pour ce monde-là que j'étais faite. Donc ça, c'est vraiment une grande étape.
Et comment ça s'est fait? Je suis désolée de t'interrompre, le passage, tu vois, du statut, parce que je pense qu'en plus, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, ils rentrent un peu dans un espèce de, une route qui est toute tracée, mais ils se posent pas tellement la question, et même si effectivement ils ont plus d'appétence pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait quand ils étaient plus jeunes dans le cadre de leurs études, ils se disent non, moi j'ai fait des études d'ingénieur, je reste dans les études, je reste dans le circuit un peu ingénieur. Qu'est-ce qui a fait que toi, finalement, t'es passé de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, alors qu'en plus, on peut le dire, souvent les métiers commerciaux, malheureusement je trouve, peuvent avoir une image, tu vois, un peu moins noble que les carrières d'ingénieur.
Oui, c'est vrai, Alors, enfin, moi je trouve ça pour le coup très noble, mais je suis d'accord avec toi, il y a une certaine image. En fait, chez Valrhona, la particularité, c'est qu'on crée des chocolats personnalisés pour certains chefs. Et donc, du coup, tu es obligé d'avoir la double compétence de très bien t'y connaître en chocolat pour ensuite pouvoir créer le bon chocolat pour le chef. C'est-à-dire, c'est lui qui va te dire, voilà, moi, je veux un chocolat qui soit plutôt acidulé, plutôt à 75%, plutôt pour enrober, plutôt, enfin, voilà. Et donc, du coup, t'es obligé de t'y connaître un peu. Et notamment, quand je suis tombée jeune ingénieur face à Patrick Roger, qui est une des personnes que je connais, qui a vraiment un palais absolu, pour le coup.
Puis, il a une personnalité voilà, assez
c'était,
forte.
C'était chaud les marrons. Mais du coup, j'ai eu cette opportunité, si tu veux, assez rapidement, où on m'a dit, bah, tiens, tu fais de la R&D, mais on développe aussi des chocolats à façon personnalisés pour les chefs. Et du coup, j'ai bondi dessus en disant, OK, moi, je prends. Et après, je leur ai dit, bon, dès qu'il y a un poste vraiment ferme là-dessus, moi, je veux faire plus que ça. Et encore après, je leur ai dit, bon, maintenant, c'est super, j'ai fait ingénieur, j'ai fait du commerce, maintenant, je veux faire plus que du commerce, je veux vraiment faire du terrain.
Et donc, c'est quand même venu beaucoup de toi. C'est-à-dire
oui,
que c'est toi quand même qui as saisi
ouais,
ta chance.
C'est une
quoi.
Volonté. C'est une volonté. Et du coup, là, il y a un peu le deuxième moment clé. C'est, je dis maintenant, je veux faire du terrain. Et mon patron de l'époque, qui est un mec génial, me dit, OK, bah, écoute, tu pars en Espagne, quoi. J'ai fait, mais je parle pas un mot d'espagnol. Il m'a dit, bah, écoute, c'est pas grave, t'apprendras, quoi. C'est quand même pas. Et lui, en effet, il parle 5 langues, je crois. Donc, en fait, pour lui, c'est juste normal, quoi. Donc, j'ai débarqué en Espagne, je parlais pas un mot d'espagnol, j'ai fait 15 jours de cours intensifs et je me suis retrouvée à gérer la force commerciale. Et quand tu gères une force commerciale, t'es tout le temps au téléphone. Donc, l'espagnol, en fait, t'as pas le choix, quoi. Tu l'apprends hyper vite parce que au téléphone, si tu veux, avec des commerciaux sur la route tout le temps. Et donc, je suis rentrée, j'ai plongé dans le bain, si tu veux, assez rapidement et ça a été une expérience fabuleuse. Bon, après, il m'a dit, tu prends l'Italie. On a refait le coup de je parle pas italien. Enfin,
on fait ça sur 18 pays.
Et après, le Moyen-Orient. Enfin bon, voilà, plein de choses. Et à ce moment-là, en Espagne, pour me désolidariser un petit peu de cette formation d'ingénieur, j'ai décidé de passer un MBA. Pour me dire, allez, le jour où je dois, je sais pas, changer de boulot, changer de boîte, rentrer en France, je veux plus être cantonné dans ce truc-là et je veux que les gens aient conscience que ma compétence, elle est plutôt dans le management, le commerce, business, etc. Et à la fin de mon MBA, le groupe était en train de racheter la chocolaterie Weiss à Saint-Étienne. Et donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bah, écoute, si tu veux, tu prends la direction générale de Weiss. Et je suis restée vraiment scotchée. Je m'attendais à ce qu'on me propose une direction commerciale. Enfin, si tu veux, c'était la suite logique. La direction générale, c'est
ce que là, ce stade
devant,
t'avais
quoi.
Combien d'années d'expérience professionnelle à peu près, tu dirais?
C'était il y a 6 ans, 7 ans. Donc, tu vois, j'avais 33 ans, quoi. Ouais, j'avais 8 ans, quoi.
Ouais.
8 ans.
Non, mais c'est bien, mais je veux dire, du coup, parce que Weiss à l'époque, c'était combien de collaborateurs?
C'est 120
à peu près
personnes.
Voilà.
Ouais, 120 personnes. Non, c'est une belle boîte, hein, en plus, voilà, avec un gros challenge, etc. Donc voilà. Donc c'est vraiment les grandes étapes, c'est celle-ci, quoi. C'est vraiment le passage au commerce. L'Espagne, là, du coup, la découverte de l'export, je voyage en Italie, au Moyen-Orient, etc. Et puis après, bah, le retour en France avec un poste de direction générale, quoi.
Incroyable. Alors, il y a franchement plusieurs choses. Enfin, du coup, j'ai 1000 questions, mais ce que je trouve assez fou, premièrement, si j'essaye de mettre un peu de l'ordre dans ma tête pour que ça soit audible, le fait que tu saisisses ta chance, je trouve ça hyper fort et j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que du coup, donc tu passes d'ingénieur à une partie commerce, mais d'après ce que je comprends, c'est toi qui le demande parce que tu as cette appétence et parce qu'il y a ce contact avec Patrick Roger. Ça, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu essayes de pousser, tu vois, avec tes piou-piou, si je puis dire, enfin qui peuvent parfois être, j'imagine, pas du tout des piou-piou, mais parce que je pense que finalement, quand on est manager, c'est quelque chose qu'on a vraiment souvent envie finalement de partager avec ses collaborateurs. Mais c'est pas forcément évident. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont un peu des petits syndromes de l'imposteur qui traînent par-ci par-là et qui sont pas forcément assez, voilà, qui ont pas forcément assez confiance en eux. Toi, finalement, tu l'as fait et t'as pas non plus l'air d'être quelqu'un, tu vois, qui a envie de tuer tous ses compétiteurs au passage du tout. Donc, qu'est-ce qui fait que t'as eu cette confiance en toi, tu vois, de dire, OK, ben, c'est ce que je veux, j'ai envie de le tester, et que ce soit d'ailleurs pour passer sur la partie commerce et puis pour accepter le deal de l'Espagne, qui était quand même un énorme challenge, j'imagine.
Je pense que la confiance en moi, c'est une de mes forces. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, je viens pas de ce monde-là. Je viens pas d'un monde d'entrepreneur. J'ai une mère instite, un père kiné. Enfin, je suis pas du tout prédestinée à ce monde-là. J'évolue avec aucun entrepreneur autour de moi. Donc vraiment, c'est. Par contre, j'ai toujours eu ce côté de se dire, bah, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Je suis partie à un moment faire mes études pendant 3 ans à La Réunion. J'avais 20 ans. Voilà, j'avais juste envie de partir, en fait, c'est tout. Et du coup, j'ai développé peut-être avec le temps cette confiance. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est une force.
Une fois en fait que tu vas réussir quoi qu'il arrive, ou
c'est même pas réussir en fait. C'est me faire plaisir. C'est le but ultime, c'est juste de faire ce que j'aime, de me lever le matin avec la banane, de me dire putain ce job il est génial, et même pas ce job en fait, aujourd'hui c'est au-delà d'un job quoi, ça se mélange entre vie perso, vie pro, c'est vraiment se lever le matin et se dire putain ce que je fais c'est vraiment bien quoi. En plus aujourd'hui avec des dimensions encore plus fortes sur le responsable et tout, et du coup de se dire bah ce que je fais c'est bien pour moi, mais c'est bien pour les autres, c'est bien pour l'ensemble. Et après pour revenir à ce que tu disais par rapport aux gens, en fait le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même personnalité, le même caractère. Et j'avoue que des fois, c'est difficile pour moi quand, par exemple, tu fais une proposition à quelqu'un, une opportunité, et que la personne te dit « Ouais, ok, mais du coup, est-ce que dans 6 mois, il y aura peut-être autre chose ?» Putain, mais j'en sais rien, quoi. En fait, c'est là, maintenant. Tu prends pas, quoi. Et moi, j'ai envie de leur dire « Mais vas-y, saute, quoi. » En fait, saute sur toutes les opportunités, quelle qu'elle soit, et ne te dis pas peut-être celle d'après sera mieux quoi. Moi je me dis toujours bah vaut mieux maintenant quoi. Et c'est vrai que des fois c'est dur à gérer quand tu manages des gens, parce que tu as envie en fait de les pousser là-dedans, mais après la personnalité des uns et des autres, et c'est à nous de nous adapter en tant que manager pour faire en sorte de gérer ces différences là quoi.
Hyper intéressant. Si ça te va, je veux bien revenir du coup sur ton enfance et puis après on reviendra à ta longue carrière dans le chocolat. Je dis longue parce que finalement c'est quand même assez fou que t'aies fait quasiment toute ta carrière, si je me trompe pas, dans le même secteur. Donc, tu disais donc que ta maman, c'est ça, était instit et ton papa kiné, c'est ça, ou l'inverse, c'est ça. Mais est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton enfance, tout simplement, enfin voilà, où est-ce que t'es né, t'as grandi dans quel type de famille, t'avais des frères et sœurs, enfin ça ressemblait à quoi, et puis toi personnellement, t'étais quel type de petite fille, tu vois? C'était plutôt la fille super extravertie qui était un petit peu, je sais pas, à l'école, on va dire, qui parlait à tout le monde. T'étais au contraire la bonne élève sage. Enfin, ça se passait comment?
Je suis issue d'une famille, donc comme je te disais, vraiment très très loin du monde de l'entrepreneuriat. Hein, plutôt donc ma mère qui est instite, donc qui porte beaucoup de valeurs sur l'égalité des chances, quoi. Se dire que tu vois, pour elle, l'école c'est ce qui va permettre de remettre à niveau ce que le contexte familial ne permet pas de faire, ou le contexte économique. Et du coup, pour elle, c'était vraiment, c'est un engagement, quoi. Tu vois, c'était l'instit qui était là à 7h du mat jusqu'à 7h du soir, tous les jours.
La vocation.
Voilà, l'engagement de se dire, il faut qu'il y ait une égalité des chances, et forcément, elle passe par l'école, parce que l'école, c'est le seul endroit où on met tout le monde au même niveau, où on ne regarde pas la classe sociale, etc. etc. Ce côté-là d'égalité, moi, je l'ai vachement gardé, je pense. J'ai eu aussi... mon père qui s'est beaucoup occupé de nous, parce que pour des raisons de santé, il a dû s'arrêter de travailler assez jeune. Donc en fait, c'est lui qui s'occupait des enfants. Donc pareil, j'ai eu un modèle, on va dire, familial à cette époque-là, qui était assez décalé.
Ouais, c'est clair.
Avec un père au foyer qui faisait énormément de sport, qui faisait énormément de choses, mais qui bossait pas, et qui du coup nous élevait pendant que ma mère, elle, travaillait. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est un modèle finalement assez décalé, que j'ai toujours très bien assumé. Tu vois, vis-à-vis de l'extérieur. Je suis la deuxième, j'ai un grand frère et une petite sœur. Et après, quel type d'élève j'étais ? J'étais à la cool, quoi. Le strict minimum pour atteindre... voilà, je me foulais pas trop. D'ailleurs, ça m'a poursuivi longtemps, hein, parce que pour finir avec mon bac+5, j'ai mis 8 ans. Donc, si tu veux, j'y suis allée vraiment tranquille. Voilà, c'est pour ça que je te dis que j'étais pas prédestinée, quoi.
C'est marrant parce que tu vois, enfin moi malheureusement, faut pas que je dise ça, j'ai fait plein d'études, longues études, et souvent, je dis pas que je regrette, mais disons que j'ai un peu l'impression d'avoir perdu, tu vois, 10 ans, 12 ans de ma vie en études, alors qu'en fait, j'aurais pu démarrer beaucoup plus tôt, et du coup, bon, c'est pour ça, je suis assez ravie d'avoir des personnes qui montrent que, bah, on peut prendre son temps dans les études ou pas, peu importe, à la rigueur, c'est pas du tout ça qui fait.
En plus, sur ces 8 ans, par contre, j'ai acquis énormément de choses, parce que du coup, j'ai rebondi à chaque fois, du coup, j'ai fait plein de stages, je suis partie 6 mois en Inde, j'ai fait des stages, etc. Donc, du coup, quand je suis arrivée en école d'ingé, en fait, quelque part, t'es un peu un ovni. Sauf que t'as une expérience déjà qui est énorme. Donc, quand t'arrives sur le monde du travail, enfin, t'es recruté hyper vite, en fait, parce que derrière toi, t'as pas un background scolaire.
Ouais, et puis surtout, souvent, je pense qu'on, enfin, je sais pas si toi c'est le cas, mais les recruteurs regardent les études un peu, certes, mais regardent quand même énormément les stages et les quelques expériences professionnelles que t'as. Donc, c'est quand même hyper clé. Et tu voulais faire quoi quand t'étais petite? T'avais une vision? Tu savais que tu voulais bosser dans le monde de la gastronomie, en tout cas, ou rien à voir?
Non, rien à voir. Je suis pas du tout de ce monde-là non plus. Je suis vraiment tombée dedans avec Valoana. Je suis vraiment tombée dedans en faisant mon stage. Par hasard, et en fait, pendant les premières années où j'ai bossé dans ce monde-là, que je l'ai découvert, je me suis dit, putain, ça va être dur de le quitter, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? Ben, en fait, tu vois, 15 ans après, j'y suis encore, et en fait, je pense que c'est un monde qu'on quitte plus. En plus, aujourd'hui, je vis dedans. Mon copain, il est pâtissier glacier. Donc, si tu veux, voilà, je vis dedans. C'est devenu une part de ma vie à part entière. Aller découvrir des nouveaux restos, aller découvrir des nouveaux chefs, rencontrer des personnalités. Donc, non, c'est vrai que j'étais pas du tout là-dedans et je faisais pas beaucoup de grands restos, à part, on va dire, les gâteaux le dimanche, voilà quoi, traditionnellement.
Et tu voulais faire quoi, du coup? T'avais une idée?
Franchement, j'en sais rien. À l'époque, ce que je voulais faire, c'était passer du bon temps, faire de l'escalade, m'amuser avec mes copains. j'ai pas de souvenir, de ce que j'ai voulu faire, non. Beaucoup le plaisir.
Ouais. Bah, j'ai l'impression que c'est une notion qui va revenir assez souvent. Pour reparler un tout petit peu de tes parents, si ça te dérange pas, je trouvais ça hyper intéressant justement que tu dises que ton modèle familial était légèrement inversé, c'est pas non plus, mais un peu inversé. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des valeurs que tes parents t'ont transmis parfois, tu vois, il y a des valeurs, je sais pas, de liberté justement, des valeurs de travail, des valeurs de mérite peut-être, d'égalité, et qui sont particulièrement importantes dans ta vie que tes parents t'ont transmises?
Je pense des principes d'action, tu vois, oser dire ce qu'on pense, assumer ses opinions, même si elles sont en décalage avec celles des autres, assumer...
Ce qui est génial, parce que franchement, c'est peu fréquent hein, quand même d'oser ce genre de choses.
Et ce qui me vaut des fois des discussions, hein, parce que mine de rien, on fait partie quand même d'une grosse entreprise qui fait partie d'un groupe, et du coup, je suis très libre
dans
les paroles et dans ma façon d'être aussi. Mais du coup, voilà, c'est peut-être vraiment ce principe d'action de se dire, bah, finalement, j'assume, et en fait, je ne vais pas essayer de me changer pour rentrer dans un moule, et si jamais je dois rentrer dans un moule, bah tant pis, vaut mieux que je m'en aille et vaut mieux que je fasse autre chose.
Je trouve ça intéressant parce que c'est quand même assez peu fréquent les gens qui assument vraiment leurs paroles. J'ai pas envie du tout de faire de stéréotypes, mais notamment les femmes quand même sont plutôt en mode je veux faire plaisir et machin. Et du coup, toi, t'aurais des conseils, des exemples justement pour réussir à assumer un petit peu plus quand on a une opinion et qu'on a... Parce que moi-même, hein, je sais très bien que je peux être dans une réunion où parfois même je suis plutôt à la direction et pour autant, je sais que mon opinion va être peut-être un peu étonnante et donc j'ai toujours un peu une appréhension, tu vois, de la dire. Et ça veut pas dire qu'il faut pas y mettre les formes et qu'il faut pas être respectueux, mais est-ce que t'aurais un conseil ou peut-être des... technique ou à l'inverse des choses qu'il faut pas faire, tu vois, pour dire en fait ce qu'on pense sans que ça soit complètement mal pris, mais en même temps on se l'assumer, quoi.
En fait, je pense que ça va être plus facile pour toutes les nouvelles générations parce que j'ai la sensation qu'elles fonctionnent vachement quand même au sens, aux valeurs. C'est hyper important pour eux et du coup enfin, quand je dis les jeunes générations, vraiment ceux qui ont 20 ans aujourd'hui qui se disent qui sont capables de pas prendre un job parce qu'ils rentrent pas dans leurs valeurs, ont vraiment, tu vois, cette perception du sens des valeurs, je la sens encore de plus en plus forte. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que les gens vont réussir à se creuser des chemins et du coup à s'assumer grâce à ça, en fait, tu vois, d'aller chercher à l'intérieur d'eux. Ça dépend de la personnalité, parce que si on est quelqu'un d'un peu sécuritaire, oui, je recommande pas d'arriver en disant « fais chier en réunion », et voilà, parce que forcément, si on a besoin de sécurité, c'est pas bonne chose à faire. Après, moi qui suis plutôt proche du côté liberté, je me dis « bah tant pis, hein, advienne que pourra », et si ça passe pas, c'est que c'était pas fait pour passer, quoi. Donc, il y a...
Je comprends. Bon, alors du coup, on revient quand même à Valrhona. Tu commences en stage là-bas et donc tu shiftes assez rapidement, si je comprends bien, sur la partie commerciale. Ensuite, l'Espagne. Et alors ça, j'aimerais juste revenir dessus parce que quand même, méga challenge de partir dans un pays que tu connais pas, tu parles pas la langue. Et en plus, tu te mets à devoir diriger une équipe commerciale, si je comprends bien, alors que t'avais pas forcément vraiment fait ça avant. Ça ressemblait à quoi tes premières semaines là-bas? Globalement, tu débarques, on te dit merci d'apprendre l'espagnol et
raconter une anecdote parce que franchement, elle me fait rire encore à chaque fois. C'était un peu bienvenue chez les ch'tis. C'est que j'ai un commercial sud de l'Espagne qui part. Alors, je me souviens plus si c'est moi qui le sors, s'il part. Enfin bon, bref, il était nul, c'était la cata, donc je le sors. Et du coup, je dis aux filles du bureau avec qui je travaillais, je leur dis, écoutez, c'est pas grave, je pars 2 semaines dans le sud de l'Espagne et je vais faire son job. Donc, vous me prenez tous les rendez-vous avec tous les clients et je vais faire le boulot. Et les filles, elles me disent, non, mais attends, Clem, t'es sûre, tu sais, le sud de l'Espagne. Enfin, tu vois, elles voyaient bien mon niveau de langue et tout, machin. Elles me disent, non, mais t'es sûre, tout. Je fais, ouais, pas de souci, comme d'hab, c'est grande confiance. Allez, on y va, je prends mes billets, je regarde même pas les rendez-vous que j'avais. Bon, je débarque là-bas, premier client, je te jure, je comprends pas un mot. Mais pas un mot. Parce qu'en fait, dans le sud de l'Espagne, ils ont un accent, mais énorme, énorme. Par contre, ils sont super gentils. Donc en fait, on a rigolé comme des baleines. À la fin, je sortais des rendez-vous, je rappelais les filles du bureau, je disais, rappelle le mec, parce que j'ai rien compris, je pense qu'il m'a passé une commande, mais j'ai rien compris. Par contre, j'ai rigolé, j'ai passé des super moments, j'ai goûté plein de chocolat, j'ai rencontré des gens fabuleux, mais j'ai rien compris pendant 2 semaines. Voilà, ça, c'était, voilà à quoi ça ressemblait mes débuts en Espagne.
En fait, finalement, le commercial chez Valrhona, c'était quoi? C'était, tu vendais à des chefs, c'est ça?
Aux pâtissiers, ouais. En fait, on a deux activités, donc on vend quasiment qu'au chef, hein, ouais. C'est vraiment notre métier. Et donc, en fait, on vend soit en restauration, soit en pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, etc. D'accord. Donc, du coup, quand je visite dans le sud de l'Espagne, je visite des pâtissiers, des boulangers, des chocolatiers, enfin voilà quoi, des gens, des artisans quoi.
Et le pitch, ça ressemble à quoi du coup? Vas-y, retourne un petit peu en moi, il y a 20 ans.
Bah, le pitch, déjà, quand tu parles pas espagnol, il est moyen.
C'est clair.
Non, après, en fait, essentiellement, ce qui fait la force de Valrhona, c'est la qualité des produits, quoi. Enfin, en fait, ce monde est un monde assez particulier au niveau du goût. Les gens à qui on a affaire sont des professionnels, donc il faut à la fois des produits qui leur simplifient la vie, mais il faut un service aussi exceptionnel, parce qu'en fait, tu sais, ces gens-là, des artisans, putain, leur vie, elle est dure. Hein. Ouais. Les mecs, ils se lèvent le matin, ils bossent comme des fous, ils se couchent tard le soir. Et tout ça pour nous créer à nous des moments de plaisir. Hein. Parce que pendant que nous, on mange au resto le samedi soir avec les copains bien sympas, derrière, il y a un chef qui se couche à 2h du matin. Quand on fait l'anniversaire de la grand-mère, le dimanche, en famille, il y a un mec qui s'est levé à 4h du mat. Et c'est pour ça que moi, je les adore d'ailleurs. Hein, parce que je suis très admirative en fait de leur travail, de leur capacité de travail. Ils travaillent énormément. Et du coup, je trouve que notre rôle à nous, c'est aussi un moment de leur simplifier la vie, de leur faciliter la vie, de leur dire « on est là, on te garantit un chocolat qui est constant, qui est stable, qui est bon, avec un service, avec des recettes, avec des choses qui vont t'aider parce qu'ils ont pas le temps, ils sont à tête dans le guidon tout le temps. » Donc nous, on a des chefs à l'école qui créent des recettes avec tous les produits. Donc on leur amène vraiment ce qu'il y a autour. C'est pas qu'un produit en fait. C'est beaucoup plus. Et je pense que vraiment notre rôle, c'est de leur simplifier la vie parce que je suis très admirative et
c'est
vraiment
intéressant. Je trouve ça assez fort parce que finalement, c'est vrai, quand on se met, tu vois, je t'ai posé la question, j'avais pas d'arrière-pensée quand je t'ai dit c'est quoi le pitch, juste parce que finalement, je savais pas vraiment, donc je me suis posé la question. Mais au final, c'est marrant que tu dis ça parce que du coup, je comprends aussi le succès de votre entreprise. C'est que, bah, vous vendez certains bons produits, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et finalement, je dis souvent une bonne, enfin, un bon produit, une belle marque, c'est tout un territoire autour et c'est évidemment bah, une confiance, un lien. Et puis évidemment, on répond à un besoin qui n'est pas forcément exprimé d'ailleurs.
Ouais. Mais qui n'est pas forcément du produit sonnant et trébuchant. Ça, c'est sûr.
C'est clair. Bon, et alors après l'Espagne, tu finis quand même par rentrer à un moment donné. Donc d'abord, on ne va pas forcément le faire dans l'ordre, mais
ouais, t'inquiète.
Il y a plein de choses. Le MBA, Vice. Et ensuite, DG, le MBA, si on revient un petit peu dessus, donc tu fais un master de business, tu disais que c'était un peu pour asseoir quand même ton côté, bah, justement, un peu plus manager. Pourquoi tu as ressenti que tu en avais le besoin? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, mais en fait, si je veux vraiment maintenant monter dans les échelons supérieurs, il faut que je passe, entre guillemets, par cette étape?
En fait, c'était pas tant de monter mon intérêt. En fait, j'avais vraiment deux objectifs quand je l'ai fait. Le premier, il était que je venais de passer une étape en Espagne, que j'ai beaucoup aimé cette culture hispanophone qui, du coup, se répand sur toute l'Amérique du Sud. Et du coup, quand tu fais un MBA à Barcelone, tu fais pas du tout un MBA anglo-saxon. Tu ferais vraiment un MBA plutôt tourné vers les économies des pays hispanophones. D'accord. Donc du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir eu cette expérience en Espagne et de la pousser, tu vois, jusqu'au bout, de se dire bon bah je et en plus du coup je faisais mon MBA en espagnol quand même finalement.
Le rêve.
Voilà, finalement tu vois,
l'aboutissement.
Ouais, j'avais un peu envie aussi de savoir que j'en étais capable. Il y avait ça et après il y avait vraiment ce côté et si enfin. Je pense qu'on en revient toujours à ce besoin de liberté. Si un jour j'ai besoin de changer de boulot, si un jour ils me font tous chier, si un jour ils me virent, je veux pas me retrouver dans une situation où je ne pourrais pas choisir mon avenir. Et du coup, j'ai eu envie de vraiment montrer à tout le monde, ouais, je suis pas qu'un ingénieur, quoi. J'ai aussi le business, j'ai aussi le management, et du coup, j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir quelque part être libre.
Ouais, complètement. Bon, mais finalement, tu retombes dans le monde du chocolat avec, j'ai l'impression, quand même un call. Donc, c'est pas forcément, j'imagine, que t'avais prévu de retourner dans le monde du chocolat.
Mais enfin, j'étais toujours, hein, parce que du coup, en Espagne, enfin, je l'ai jamais quitté, en fait. Hein,
c'est voilà, ça,
faut le dire. Voilà,
bon, tu n'as jamais quitté le monde du chocolat, voilà, mais c'est plutôt sympa.
C'est ça.
Mais du coup, cette notion de spécialisation, je la trouve intéressante parce que, aujourd'hui, ce qui est assez fou, c'est que tu vois des gens passer de job, je sais pas, dans le secteur des fleurs. Ensuite, ils vont faire du B2B SaaS. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a de moins en moins ce côté, quand nos parents avaient un job, ils restaient en plus déjà dans la même boîte, mais en plus, ils faisaient effectivement un peu une carrière finalement d'ingénieur, une carrière dans telle usine, etc. Et toi, d'une certaine manière, t'es... Je te le dis, une des rares personnes maintenant que je connais qui, bah, qui a fait une carrière vraiment dans un secteur d'activité. Toi, tu dirais que c'est plutôt... alors, j'ai pas envie de dire un avantage, un inconvénient, mais qu'est-ce que ça t'apporte finalement et en quoi tu peux le regretter aussi peut-être l'idée, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est tout simplement parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont un peu en transition de carrière, tu vois, qui écoutent le podcast. Et je sais bien que bah, parfois, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut que je reste spécialisée dans un domaine ou est-ce qu'en fait, je change? Et du coup, je trouve ça intéressant parce que j'ai eu plein de personnes qui ont changé 15 fois. Mais toi, en fait, bah, tu prouves qu'on peut être heureux en fait en restant dans un même, on va dire, secteur d'activité. Donc, je voulais quand même avoir un peu ta vision sur ces deux aspects.
En fait, ce que ça apporte, c'est qu'en fait, le monde de la gastronomie, c'est un tout petit monde. De Tokyo à New York, en passant par Paris, les gens se connaissent. On apprend beaucoup les uns des autres. Et en fait, ce que ça m'a apporté de toujours évoluer là-dedans, bah, du coup, c'est de connaître de mieux en mieux ce microcosme. Et en fait, la particularité de nos métiers dans le B2B et surtout auprès des artisans, c'est qu'en fait, tu crées une relation, quoi. C'est pas des gens qui t'ouvrent leur porte au bout de 5 minutes, et qui te laissent déballer tes produits et merci, je vais t'en prendre 2 et je repars, quoi. C'est un monde, en fait, de relations, de confiance petit à petit où justement, comme je te disais, nous, chez Valeron, on apporte autre chose, donc on apporte une expérience. Donc du coup, bah, les gens, ils vont t'écouter aussi parce qu'ils savent que tu connais les autres chefs, que tu as vu d'autres choses dans d'autres pays. Nous, on fait 60% de notre chiffre d'affaires à l'international. Donc, tu vois, ils savent que, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe à Tokyo? Et du coup, en fait, tu rentres même plus dans une relation de vente, en fait. Tu rentres dans une relation d'échange, de discussion autour de ce monde-là, quoi. Après, en quoi ça peut desservir? J'en sais rien. Je sais pas. Peut-être que oui, le jour où t'as envie de changer, le jour où t'as envie de rebondir, bah, il y a des gens qui vont te dire, ouais, c'est nul, t'as toujours fait la même chose dans ton CV, machin. Bah, c'est pas grave, ces gens-là, j'ai pas envie de bosser avec eux, donc ça me dérange pas, quoi. Enfin, c'est une question de feeling. Et le monde de la gastronomie, finalement, c'est un tout petit monde, quoi. C'est un tout petit monde. Et moi, je suis bien dedans.
Ça se sent, ça se sent. Mais alors, aujourd'hui, du coup, t'as quand même pris du galon, si je puis dire, ouais. Depuis quelques temps maintenant, mais quand même, du coup, maintenant, DG. Donc, ça ressemblait à quoi, pareil, si je te repose la question par rapport à l'époque où t'es arrivé en Espagne. Là, les premières semaines, je trouve ça toujours assez fascinant de comprendre, en fait, quand tu changes de poste, c'est assez dur, surtout quand bah, tu connaissais un peu toutes les équipes. Du coup, en fait, le regard, il change, les responsabilités, il change. Comment, du coup, tu t'insères, en fait, avec ce nouveau rôle, ce nouveau poste dans la boîte, et ça ressemblait à quoi? C'était quoi aussi, peut-être, tu vois, tes challenges et les points sur lesquels tu voulais faire attention?
Alors, l'avantage, c'est que j'ai eu un sas de décompression entre l'Espagne et DG de Valrhona, puisque, du coup, j'ai repris la direction générale de Weiss, qui, du coup, est plus petit, une plus petite boîte de 120 personnes. Et du coup, le challenge chez Veille, c'était une boîte qui perd de l'argent depuis très longtemps, mais qui est une marque qui est magnifique, qui est reconnue dans ce monde-là, et du coup, qu'il fallait sublimer. Et donc, en fait, là-bas, les gens plutôt me connaissaient pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est retroussé les manches tous ensemble pour juste relever la boîte. En fait, t'as qu'un seul objectif, c'est la pérennité de l'emploi, c'est la pérennité de la boîte, c'est la pérennité de la marque aussi. Et là, du coup, quelque part, là, j'ai presque envie de dire que la mission est facile, quoi, parce que la route est tracée. Non, mais je veux pas surtout pas paraître prétentieuse. Hein, c'est pas du tout l'objectif,
ah
mais c'est vraiment.
C'est
plutôt de se dire que la route, en fait, elle est tracée et que du coup les gens te suivent parce qu'en fait l'objectif il est simple. Il est simple. Il est derrière. Il y a des emplois.
Ouais, enfin, tu dis ça, mais quand même, pour avoir parlé à pas mal de gens qui ont fait beaucoup de retournements ou de reprises, réussir à faire adhérer les équipes au projet, même s'ils sont attachés à la marque et tout, et puis à la personne, même si, tu vois, ils te connaissaient pas, comme tu dis, donc ils auraient très bien pu dire, bon, ok, elle est bien sympa, Clem, mais enfin, on invite quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça n'a pas été le cas, visiblement. Donc, t'as quand même réussi à onboarder les 120 personnes pour suivre le projet.
Ouais, mais c'est vrai que il y a eu une dynamique, en fait, il y a une dynamique hyper forte. J'avais avec moi une équipe de direction qui est arrivée avec moi du groupe. L'avantage, c'est qu'on a pris la place de personne parce qu'en fait, on s'est posé en fait sur l'organisation existante parce qu'en fait, l'ancien patron avec tout le monde en râteau. Si tu veux, il avait tous les cadres en râteau. Et du coup, c'est lui qui revendait et qui partait à la retraite, qui était assez âgé. Et du coup, en fait, on a fait une cassure assez rapidement parce qu'en fait, moi, je suis arrivée, on était 4 filles. Ouais. Équipe de direction, plutôt 3 sur les 4 dans la trentaine, avec des enfants en bas âge, etc. Voilà. Donc du coup, vraiment un changement hyper brusque, qui fait que du coup, il n'y avait pas de comparaison. Tu vois, on n'était pas dans le mode lui, c'était mieux avant, parce qu'en fait, c'était juste différent. Et en fait, on a réussi à se projeter dans ce... Dans ce projet. Et tu vois, il y a toujours des trucs qui me font rire. Tu sais, quand tu rencontres des consultants, des mecs, ils te disent, ouais, c'est quoi ton pic performance, ton flow, tu vois, t'es vraiment... Ben, en fait, pour moi, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est une équipe alignée. T'as les mêmes objectifs. Tu crois en les mêmes choses. Un plan méga solide.
Et simple, en général.
Hyper simple. Et surtout, un plaisir... partager, de travailler ensemble, quoi. Et ben pour moi le point de réussite c'est ces trois points là, quoi. Donc voilà, donc après il faut aligner tout le monde derrière, etc. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est des super moments.
Non, mais voilà. je comprends du coup aussi pourquoi t'étais pareil effectivement quand t'as débarqué chez Valrhona, du coup, parce que t'avais quand même une petite expérience en la matière.
Exactement, j'ai eu entre guillemets la chance de réussir le Paris Weiss, hein. On a retourné la boîte, on a réussi à repasser en positif, etc.
Le plaisir que ça a dû être quand même.
Ah ouais, c'était fabuleux, quoi, fabuleux vraiment. Et du coup, j'arrivais chez Valrhona à la fois avec les gens me connaissaient. Donc une rassurance. En plus, on fait une belle transmission avec l'ancien DG qui du coup lui est toujours là parce qu'il chapeaute plusieurs activités, etc. Et moi, je m'intéresse vraiment au cœur Valrhona, vraiment à Valrhona. Donc du coup, lui, il explique vraiment pourquoi est-ce qu'il m'a choisi moi, parce qu'il était déjà là quand j'étais stagiaire, etc. Donc tu vois, il y a quand même ce lien qui explique aux gens. Et surtout avec la nouvelle équipe, pour moi, le point de départ, c'est qu'on décide de démarrer sur la mission. C'est quoi la mission de Valrhona? C'est quoi notre objectif dans la vie? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Et en fait, on a pris tout ce qui existait déjà, parce qu'il y avait énormément de choses qui existaient chez Valrhona. C'est une entreprise qui est très solide, qui avait déjà écrit une vision, qui avait des valeurs, enfin, qui était déjà très forte. Et en fait, on s'est juste concentré sur c'est quoi notre vision. Et si je te fais la version courte pour pas te faire la version longue, c'est ensemble faisons du bien avec du bon. Et je veux dire, quand t'as dit ça, et que du coup tu te dis ce que je veux, c'est créer une filière cacao juste et durable, c'est accompagner mes clients vers une gastronomie responsable, et ben globalement tu déroules, quoi, les projets. Est-ce qu'ils rentrent là-dedans? Non, allez hop, ils dégagent. Est-ce qu'ils répondent à la mission? Est-ce qu'on va mettre de l'argent sur ça? Ça répond à la mission? Oui, ben on y va. Enfin, en fait, c'est un guide.
Ouais, bien sûr, mais tu prêches à une convaincue, parce qu'en fait, bon, moi, tout ce qui est plateforme de marque, parce qu'on peut le dire, c'est ça. C'est, je trouve que c'est un crible, en fait, de prise de décision. Ah ouais. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est qu'ils sont persuadés que c'est juste du marketing. C'est pas du marketing, en fait.
Ah non,
c'est juste
la stratégie globale.
Stratégie globale de la boîte et qui, même au niveau de la gestion des coûts, en fait, va te permettre de le faire. Donc, je trouve ça... Et ça, c'était... Si on rentre un tout petit peu juste dans le détail, c'est toi, entre guillemets, qui, quand on vient te chercher, on te dit « Ok, maintenant, tu vas chez Valrhona pour être DG et avec cette transition, etc. Tu fais ce que tu veux, on te laisse les clés, tu te débrouilles. » C'est toi qui dis « Je pense qu'il faut qu'on repense la plateforme de marque. » Ou c'était quelque chose qui était déjà... Enfin, ce que je veux essayer de comprendre, c'est toi, en fait, quand t'arrives pour à nouveau donner une nouvelle impulsion à Valrhona, est-ce que pour toi, ça a été ça, la première étape, ou finalement, il y a eu peut-être autre chose qui était plus d'onboarder l'équipe? Enfin, tu vois...
En fait, je pense que mon expérience Weiss me faisait dire le facteur clé de réussite, c'est un projet clair. Un projet clair, et du coup, pour que ce soit clair, il faut que ça puisse s'expliquer simplement. Tu vois, moi, je suis très visuelle, j'ai besoin qu'il y ait une seule image, une image qui représente l'ensemble de la stratégie de la boîte. Et après, on peut rentrer les trucs par tous les côtés, mais il faut que ça rentre dans cette image-là. Mmh. Et du coup, Juliana, qui est arrivée du coup en même temps que moi, parce que du coup, l'équipe s'est renouvelée en même temps que moi, donc il y a la directrice marketing comme de chez Valro, plus il y avait aussi une personne, Carole, en RSE, qui était aussi, comment est-ce qu'on remet la RSE au mieux de l'entreprise. Et en fait, toute une équipe de personne qui était un petit peu, qui était là depuis longtemps chez Valrhona, mais qui du coup montait d'un cran avec mon arrivée. Les personnes au cacao, qui s'occupent du cacao, du sourcing, etc. Et en fait, Juliana nous a dit, bon, on bosse sur la mission. OK. Parce que pour moi, ça allait répondre à mon seul objectif qui était le projet clair. Tu vois, c'est plutôt elle en tant que marketeuse qui dit, voilà le mot qu'on met dessus. Moi, ce que je veux, c'est un projet clair. Et donc, le projet clair, c'est la mission, et donc on se met tous autour de la table, et on bosse, et on sort maintenant ce qui est notre guide, quoi, notre fil.
Et alors justement, tu peux rentrer un tout petit peu plus dans le détail de concrètement, qu'est-ce que vous avez fait comme action pour que ça reste pas lettre morte, tu vois, et que ça soit vraiment, ok, c'est du concret, les raisons d'y croire, quoi, finalement, à cette promesse, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver? Parce que c'est ça le risque, quand même.
Ben, en fait, c'est hyper intéressant que tu me poses cette question, parce que je suis hyper attachée aux actions concrètes et aux faits. Et d'ailleurs, la personne qui a illustré ce que je veux dire par rapport à ça, c'est un jour, on discutait au Mandarin Oriental avec Thierry Marx, et il me dit, dire fait rire, faire
fêter. Tu me le présentes pour qui passe sur le podcast, hein, by the way.
Et donc, il me dit, dire fait rire, faire fêter. Et en fait...
Dire fait rire, faire fêter.
Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu peux mettre tous les beaux mots que tu veux sur un PowerPoint, tu peux faire tout ce que tu veux. À la fin, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait. Et donc, du coup, dès qu'on a eu écrit notre mission, si tu veux, qui se développe, derrière, ce que j'ai tout de suite demandé aux équipes, OK, quelles actions prouvent que ce qu'on dit ici, c'est vrai? Et donc, quand on dit on crée une filière cacao juste et durable, en fait, nous, on a déjà 100% de notre cacao qui est traçable jusqu'au producteur. On a déjà des partenariats à long terme, de long terme d'environ au moins 6 ans, avec 100% de nos producteurs. On a déjà des projets d'agroforesterie dans plus de 4 pays, 5 pays, 6 pays. Donc tu vois, et du coup je dis OK, donc du coup ça va, on peut l'écrire, parce qu'on a déjà toutes ces preuves.
Oui, c'est ça, tu t'aurais pas signé en bas de la feuille si jamais il n'y avait pas une vraie sincérité derrière, quoi.
Ouais, et c'est vraiment, je crois vraiment à cette qualité en fait de faire, et c'est peut-être aussi ce qui fait, tu vois, le fait que j'ai eu une évolution rapide. Moi, je suis une opérationnelle. Je reste une opérationnelle. Je reste quelqu'un qui fait, quoi. C'est pour ça aussi que j'ai pas besoin d'avoir un bureau pour regarder la stratégie en vue hélicoptère, parce qu'en fait, je fais aussi avec les équipes, quoi.
Hyper clair, enfin, j'adhère à 400%, donc je te remercie pour le partage. Si on parle un tout petit peu justement de la responsabilité, je sais que c'est un truc qui est du coup super important pour vous, et alors je t'avoue que je ne m'étais pas tellement posé la question pour le chocolat, alors qu'en fait c'est complètement con, parce qu'il y a quand même un paquet de marques justement qui essayent de promouvoir l'éthique, plutôt sur le B2C, hein, mais en tout cas de ce que je vois. Pour vous, ça a été un challenge finalement de l'implémenter. Est-ce que il y a des actions que vous voulez mettre en place encore plus fortes? C'est peut-être évident ce que je pose comme question, mais bon, c'est quand même des sujets qui sont hyper importants maintenant. Et tu disais que vous aviez une directrice RSE, etc. Surtout dans un genre de secteur quand même où on travaille dans des pays qui sont souvent des pays en développement. En tant que marque, en fait, du coup, on a une responsabilité, j'imagine. Et donc, vous, au-delà de ce qu'il y avait déjà en place, qu'est-ce que vous essayez de faire en plus?
En fait, l'avantage et la grosse force de Valrhona, c'est que la boîte, elle a été construite comme ça. En fait, c'est son ADN depuis hyper longtemps. En fait, ça fait très longtemps qu'on travaille comme ça, qu'on crée des partenariats avec des planteurs. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on l'a fait au début? Parce que ça, c'est intéressant. Au début, en fait, on l'a fait pour des raisons de qualité produit. C'est-à-dire à une époque où on parlait pas de responsabilité sociétale, en fait, on l'a fait pour une raison de qualité produit. C'est-à-dire que quand tu rencontres un producteur, que tu as envie que ton cacao y soit bien fermenté, bien séché, pour arriver au niveau de qualité et d'exigence qu'attendait Valrhona, et bah du coup, il faut le former, il faut l'accompagner. Et pour être sûr qu'ensuite, une fois que tu as développé le bon niveau de qualité avec lui, il te soit fidèle, bah il faut le payer mieux que tes concurrents. Et donc, il faut mieux le rémunérer. Et donc, en fait, c'est marrant parce qu'on est vraiment rentré par le côté qualité-produit. Et en fait, du coup, on a développé tout autour. Pareil sur le côté environnemental, en fait. Si une parcelle, elle est bien entretenue, qu'on développe d'autres arbres autour, tout le concept de l'agroforesterie, pour les gens qui connaissent pas, qui s'apparente un peu à la permaculture, où tu vas développer plusieurs arbres sur une même parcelle, etc. Et ben, c'est pareil. En fait, tu le fais au début pour des raisons, mais à la fin, l'impact social et environnemental, il est hyper important. Et du coup, ça a été un fil, finalement, continu, sur lequel maintenant on s'appuie. On communique plus parce qu'aujourd'hui ça intéresse plus les gens aussi. En fait, avant on communiquait qualité produit.
Ouais.
Et on a toujours été reconnu pour ça.
De la communication,
voilà,
quoi.
C'est ça. Et alors du coup c'est un avantage parce que du coup pour nous c'est pas que de la com.
C'est clair.
On a des vraies actions concrètes.
Et puis au-delà de ça, ce que je trouve assez fort dans ce que tu dis, c'est que finalement l'entreprise. Alors après je suis pas du tout en train de faire de politique, mais je veux dire l'entreprise a un rôle, le business. Un rôle finalement sociétal, clairement.
Ah, et oui, finalement, et moi je vais faire de la politique parce que je suis pas politiquement correcte. Et pour le coup, je pense vraiment qu'on a plus qu'un rôle. C'est-à-dire que si on compte sur les pouvoirs publics pour le faire à notre place, on se met un doigt dans l'œil. Hein. Donc du coup, on a chaque citoyen a un rôle en tant qu'individu parce que à la fin, c'est avec son porte-monnaie qu'il décide. Et chaque entreprise a un vrai rôle. Et là, pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui te suivent. Et du coup, je leur conseille, voire je leur demande, je les supplie de s'inscrire vraiment dans une dimension dès le début de sens pour l'impact sociétal, environnemental et réfléchir à ces problématiques-là dès le début, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser business, penser croissance sans penser à ça. Enfin, c'est une hérésie, quoi.
Ouais, mais en plus, au-delà de ça, c'est pas uniquement de la com. Comme tu le dis, en fait, au final, il y a quand même un besoin de qualité donc un vrai besoin business aussi pour ton produit et pour ton consommateur. Donc, en fait, c'est quand même hyper vertueux. Je veux dire, c'est pas juste, entre guillemets, on le fait pour des raisons uniquement sociales. C'est même pas. C'est ça qui est assez fou.
En fait, l'entreprise demain sera performante si elle est responsable. Ça devient une condition sine qua non. C'est-à-dire que c'est aussi ça, son niveau de responsabilité qui va faire sa performance. En fait, c'est un cercle vertueux, quoi.
Oui, et puis comme tu disais aussi, du coup, les partenaires restent dans la durée. Enfin, je veux dire, à tous les niveaux, c'est comme de bien traiter ses employés. Finalement, c'est un bon moyen aussi de faire qu'ils restent dans l'entreprise, qu'ils soient loyaux, etc.
Et tu vois, en plus, souvent, les vertus, elles sont proches. Quand on parle justement de l'agroforesterie, on peut rentrer par une dimension purement environnementale, de se dire, bah tiens, c'est la diversité sur le sol, je mets plusieurs arbres, etc. Mais c'est aussi social, parce que derrière, c'est une diversité de revenus. Tu vois, à Bali, quand on était à Bali et qu'on visitait la coopérative, les gens, ils nous disaient « La feuille de banane, c'est un revenu quotidien. » Parce que tu peux la vendre tous les jours. Tu as ton bananier, tu coupes, et vu que les gens à Bali mangent dans la feuille de banane, voilà. Donc, c'est un revenu quotidien. Les bananes, c'est un revenu hebdomadaire. La coco, c'est un revenu mensuel. Et donc, du coup, tu as aussi sur tes parcelles, en plus du cacao, des revenus, de la diversité de revenus qui fait que du coup, tu as un impact aussi social quand tu promouvois ce genre d'agriculture durable.
Oui, complètement. Hyper intéressant. Une autre petite question quand même sur ton poste actuel de DG et puis de façon générale des postes de direction. Tu parlais, tu sais, de management au début et du coup, j'ai un peu évoqué le fait que je m'intéressais au leadership. Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais est-ce que tu aurais des conseils ou au contraire des erreurs à ne pas commettre ou des erreurs que tu as pu faire ou voir chez d'autres personnes alors, soit en matière de management ou plutôt en matière de leadership, ce que je veux dire par là, c'est justement apporter cette vision onboarder les gens, quand je dis onboarder, excusez-moi messieurs dames pour tous ces anglicismes atroces, mais le fait de convaincre finalement les équipes, ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand il y a des changements comme ça assez profonds sur des marques anciennes. Qu'est-ce que tu as pu bien faire, ou au contraire mal faire? Qu'est-ce que tu peux voir, tu vois, comme erreur de temps en temps sur ce genre de sujet?
Moi, je pense que j'ai un gros angle mort. C'est que j'ai souvent l'impression que comment dire, les gens avec qui je travaille, j'ai toujours l'impression qu'en fait ils pensent comme moi. Alors pas ils pensent comme moi au sens
sont comme toi un peu.
Voilà. Et du coup, je trouve que c'est un énorme angle mort, parce que tu vois, par exemple, moi qui ai pas beaucoup besoin de sécurité et qui
prend des décisions rapides,
prend des risques, etc. En fait, faut avoir en tête que tout le monde ne réfléchit pas pareil, ouais. Et tout le monde n'a pas la même aptitude au risque ou d'autres choses. Hein. Et du coup, je pense que vraiment la clé, c'est d'être capable de s'adapter à chaque personne. Pour s'adapter à chaque personne, il faut l'avoir écouté. Et pour l'avoir écouté, il faut avoir pris du temps. Ça aujourd'hui, moi, j'en ai conscience, hein, donc j'essaye de m'améliorer, et du coup, le risque aussi, après, c'est aussi de t'entourer de gens qui sont
comme toi,
proches de ta façon de faire ou de ta façon de penser. Et là, c'est un risque, parce que ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est la diversité. Tu vois, on parle toujours des femmes dans le travail, est-ce que c'est bien ou pas d'être une femme, machin. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être des hommes et des femmes, c'est d'être des jeunes et des vieux. Et c'est cette diversité qui fait la richesse. Et donc, c'est pareil, en fait, dans les systèmes de pensée, quoi.
Comment t'as fait pour essayer de... Enfin, je sais pas si t'es passé par un coach, tu t'as fait t'as lu des bouquins. Comment t'as... Enfin, déjà, pour en prendre conscience, bon, peut-être à la dure, hein, mais aussi pour... parce que j'ai un peu ce type de personnalité, souvent, les gens un peu, on va dire, avec beaucoup d'énergie, sont persuadés que tout le monde est comme eux. Et donc, c'est à la fois bien et en même temps, c'est pas très bien, parce que on a une capacité de leadership assez forte, mais de l'autre côté, voilà, on peut aussi des personnes qui ont besoin de plus de temps pour prendre des décisions, qui sont plus consciencieux, tout ça, c'est pas facile. Comment tu fais pour, on va dire, t'améliorer comme tu le suggérais?
Moi, quand j'ai démarré comme DG, je suis rentrée dans un club qui s'appelle l'APM.
Je connais.
Qui est un club de dirigeants, association pour le progrès du management.
D'accord.
Et j'avoue que j'ai beaucoup appris, parce qu'en fait, tu rencontres beaucoup d'experts, mais t'as aussi des gens qui sont du même, qui ont les mêmes problèmes que toi, etc. Donc en fait, tu te remets beaucoup en cause. Après, moi, j'aime bien apprendre, donc je passe, j'ai fait le MBA, je m'intéresse à beaucoup de sujets. Après, en revanche, je lis pas beaucoup de livres, tu vois, je lis pas beaucoup de livres de management, ça me saoule. En fait, ça me saoule, tu vois. Donc, en fait, je sais pas, c'est des trucs que tu glanes à droite, à gauche, que tu prends, quelques podcasts, que j'écoute, enfin, tu vois, des discussions aussi avec des gens, finalement. Finalement, là où on apprend beaucoup, quand même, c'est dans les rencontres, quoi. Et quand tu rencontres des gens qui sont très différents de toi, bah, tu vas échanger sur les styles, etc. Je me demande si c'est pas les rencontres qui te nourrissent le plus, quoi.
Clairement. C'est pour ça que j'ai lancé un podcast.
Ouais, bah, t'as bien fait, ça va être passionnant.
Faut que t'en lances un. Si ça te va, Clémentine, pour terminer, j'ai toujours quelques petites questions un peu perso que j'appelle le clip du gratin, pardon. Déjà, si ça te dérange pas, juste pour commencer, une question un peu plus perso sur ton organisation vie pro-perso, qui est un sujet qui intéresse plein de gens. Globalement, est-ce que c'est un truc dont tu souffres, toi, ou est-ce qu'en fait, tu arrives à très bien gérer cet aspect-là? Parce que tu disais que finalement, ben, c'était ta vie, maintenant, tu vois, ton travail. Et moi, sincèrement, je trouve ça plutôt cool. Hein, mais en même temps, ben, je peux imaginer que ta vie perso, c'est pas si simple non plus. Donc, j'ai pas vraiment de questions très claires, mais juste quel est ton état d'esprit sur cette gestion un peu de à la fois j'adore mon métier, je suis passionnée par ça et je veux bosser tout le temps, et en même temps je sais qu'il y a aussi d'autres choses dans la vie. Comment t'arrives à trouver un espèce d'équilibre, ou est-ce que tu veux en trouver un, hein, tu vois, c'est pas nécessaire.
En fait, je le gère bien, ou alors je le gère pas. Je suis plutôt à la cool, donc du coup quand il y a des gens qui placent des réunions auxquelles je peux pas être parce que ce jour-là il faut que je dépose les gosses, parce que mon copain lui il a autre chose ailleurs, parce que lui aussi est chef d'entreprise, enfin bon bref, donc bah en fait je dis non, je suis pas dispo, tout simplement, j'assume de dire non. Après, à l'inverse, bah, pareil pour les enfants, tu vois, on s'est retrouvés pendant le confinement, nous on travaillait tous les deux sur site. Fallait qu'on travaille, qu'on trouve une nounou, et on n'en avait pas. Enfin bon, bref, un espèce de bazar. Bon, bah, les devoirs, c'est pas si grave, quoi. Enfin, tu vois, voilà, je me prenais pas trop la tête sur est-ce qu'ils ont fait les lectures et. Ouais, donc c'est.
Et t'essayes de garder des petits rituels quand même pour justement, notamment par rapport aux enfants, bon, et aux couples. C'est-à-dire des moments où tu dis les vacances, c'est sacré. Je sais pas, il y a pas mal de personnes sur le podcast, par exemple, qui me disaient, moi, le soir à 19h30, je suis chez moi parce que comme ça, je dîne avec mes enfants ou je les couche, ce genre de choses. Ou toi, finalement, là où tu aussi, t'es à la cool.
Non, parce qu'en fait, nous, notre philosophie de vie, et à tous les deux, et ça, je pense qu'on la partage, c'est qu'en fait, on a des métiers de passion. Tu vois, lui, il est pâtissier, son métier, c'est sa passion, hein, donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, l'artisanat, etc. Donc en fait, on a des métiers de passion, et je pense qu'on assume assez bien de se dire, mais en fait, on fait ce qu'on aime, et si on fait ce qu'on aime, eh ben, nos enfants nous le reprocheront jamais. Parce que je me dis qu'il vaut peut-être mieux, tu vois, rentrer le soir ou quand tu rentres, hein, quand t'es pas en déplacement, quand tu rentres et qu'ils te disent, nous on a un rituel quand je suis là, c'est c'était quoi le meilleur de ta journée, et comme dirait mon tout petit, c'était quoi le pire meilleur de ta journée. et donc du coup, bah c'était quoi le meilleur de ma journée? Ah bah c'était génial, j'ai bu un café avec telle personne au travail, on a parlé de tel sujet, c'était super et tout machin. Lui me dit ah bah moi j'étais à l'école et du coup on a fait ça. Et tu vois, de se dire que l'école c'est pas une contrainte, que le travail c'est pas une contrainte, qu'il y a des moments de plaisir en fait de partout, ou alors bah c'était génial quand on est allé faire du vélo tous les deux, tu vois. Il y a les moments géniaux peuvent être ou ensemble ou pas ensemble, ou dans le travail ou dans la vie perso. Et c'est vrai que du coup, je fais pas trop la limite.
Je peux pas te jeter la pierre. Moi, tu sais, je bossais avec mon mari, donc il y a zéro limite et c'est très bien aussi. Mais bon, c'est pas pour tout le monde, mais c'est très bien. Sport. Je sais que t'es une sportive assez. Je vois ta montre là et tout. t'es fit comme tout, machin. Est-ce que le sport, la santé, le sommeil, c'est des choses qui sont importantes pour justement ton équilibre, pour réussir juste à performer et puis juste parce que c'est des choses qui comptent pour toi?
Oui, pour moi, la santé, enfin, le sport fait partie de la santé déjà, ça c'est très clair pour moi. Chez Valrhona, il y a deux salles de sport et un coach sportif qui vient régulièrement pour tous les employés.
Je pense que vous allez recevoir énormément de candidatures suite à ce podcast.
Et en fait, après, je suis pas une grande sportive, hein, je fais pas de la compète et tout. Par contre, j'y prends beaucoup de plaisir parce que ça me vide la tête en fait. Tu sais, voilà quoi, chacun son moment de décompression. Il y en a justement, c'est en famille, à la maison, etc. Moi, je décompresse quand je fais faire du sport. D'ailleurs, j'aime faire du sport toute seule. Je suis plutôt solitaire dans cette activité. J'aime être seule, me vider la tête, faire autre chose. Voilà. Et oui, je pense que la santé, manger bien, manger des bonnes choses, des bons produits, enfin, je veux dire, ça fait partie de mon ADN. Parce que on évolue aussi dans ce monde-là, quoi.
Niveau sport, du coup, tu fais quoi? C'est course à pied, c'est ça?
Ouais, bah c'est ce qui est le plus facile, hein, quand ça. Tu te déplaces. Voilà. Mais après, je fais aussi un peu de vélo, un peu de natation.
Super. Ouais, triathlon.
Ouais, c'est ça.
Triathlon. S'il y avait quelque chose à refaire, hein, Clémentine, dans ta vie, ta carrière, ta vie, ton œuvre, qu'est-ce que tu referais différemment?
J'ai peu de regrets. Je passe toujours à l'étape d'après en me disant bon bah de toute façon c'est fait, hein, on avance. Par contre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben j'ai envie de faire encore plein de choses, quoi. J'ai plus tendance à me projeter qu'à regarder dans le passé. Après bah oui, il y a eu des moments plus difficiles, hein, tu vois, on vient de se taper le Covid quand même. Excuse-moi, je m'y attendais pas, hein. Je suis tombée au fin fond du gouffre et du troisième dessous, hein. J'ai eu un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc
je pense que
voilà, on a eu des moments difficiles. Il y a comme toujours des moments où t'es au creux de la vague, où t'en peux plus, t'en as marre, tu penses que ce que tu fais c'est nul, enfin tu vois, comme tout un chacun en fait. Et puis après bah tu te projettes, il y a une petite étincelle, enfin tu vois, dans cette crise, ce qui s'est passé, la solidarité des gens entre eux, enfin moi j'ai trouvé ça absolument génial, le rebond qu'ont fait les artisans. Moi je recevais des textos, je te jure, des collaborateurs à nous qui m'envoyaient des textos, bon Clem ça va, j'espère que tu tiens le coup, enfin tu vois, des trucs cool. Et des producteurs de cacao, d'habitude les producteurs de cacao c'est nous qui les soutenons, quoi. Et là ils nous envoyaient des mails, comment ça va chez Valrhona, on sera toujours là. c'est chouette, quoi, tu vois. Et bon, bah, ça, du coup, ça t'aide à te relever.
C'est clair. Bah, alors, justement, question que je pose toujours, je te préviens, c'est est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement dur ou un échec que tu as vécu et surtout les enseignements que tu en as tirés. Alors, c'est peut-être là la crise, mais ou autre chose, tu vois. Parce que je trouve que derrière, tu vois, tous ces succès, ces carrières hyper rapides et un peu flamboyantes, au final, c'est assez bon de savoir que non, ben, comme tu le disais, quoi, il y a des moments de doute, des moments où franchement, on a l'impression d'être nul, des moments où en fait, juste, on est nul. Et du coup, on arrive à s'en sortir et à passer à autre chose.
Bah, franchement, là, du coup, enfin... L'actualité proche, je suis obligée de te parler de l'actualité proche, quoi. Ça a été tellement un raz-de-marée quand je me suis retrouvée à devoir fermer l'usine du jour au lendemain pendant la première semaine de confinement. Je pense que j'ai jamais vu autant de monde que ce moment-là, parce que du coup, j'ai fait le tour de toute la chocolaterie, discuté avec tout le monde. Les gens, ils étaient inquiets pour leur santé. Enfin, tu vois, ce moment-là, franchement, il a été extrêmement dur.
Vous avez
extrêmement dur.
Tout le monde en chômage partiel, j'imagine.
Ouais, ouais. Quand j'ai
le jour où tu le fais, tu te dis, mais je pensais pas qu'un jour.
Ah bah ouais.
J'en arriverais là.
Tu vois,
quoi.
Une boîte comme Valrhona, quoi, qui est énorme, qui a toujours bien été et tout. Quand j'ai éteint la lumière le vendredi soir, j'ai fait une vidéo à tout le monde, aux collaborateurs et tout. Je me suis dit, merde, quand est-ce que je la rallume, quoi. Tu vois, et là, t'as la boule au ventre. T'as la boule au ventre. Quand est-ce que je vais rallumer la lumière, quoi. Et je t'avoue que, ouais, du coup, il y a eu toute une phase assez difficile où, du coup, tu vois tout en noir, t'as l'impression que ça reviendra jamais, t'as l'impression que tout va s'écrouler. Enfin,
ouais, les quelques premières semaines ont été très, très dures. Hein.
Ouais, vraiment. Et moi, du coup, j'allais quand même bosser sur site parce qu'on a quand même maintenu une activité pour nos clients. Hein, on continuait à les servir. Donc, il y avait quand même le service client qui bossait, les expéditions qui bossaient, etc. Donc, on a quand même maintenu une activité. Et au début, tu sais, j'arrivais sur ce site vide et je me disais, mais merde, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je peux pas vivre ça, en fait. Et puis après, bah, les enseignements que t'en tires, c'est qu'il y a un moment, tu dis, bon, ok, on a continué à bosser pour nos clients, service minimum. Putain, mais Valro, c'est pas service minimum, quoi. C'est quoi, Valro? Bah, c'est vachement plus. Et là, du coup, on a commencé à poster toutes leurs initiatives. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui c'est qui est resté ouvert pour essayer de les mettre en valeur? Et là, on s'est dit, putain, on va faire la map, qui était du coup la carte solidaire des artisans, tous ceux qui sont restés ouverts. Et qu'est-ce qu'ils ont développé? Click and collect, machin. On les référençait sur une carte, Google, machin. Tout ça avec 3 francs 6 sous à l'arrache à 4 personnes. On a eu 3900 inscrits. T'as Anne-Sophie Pic qui a reposté le truc. Guillaume Gomez, machin. Et là, je me suis dit, putain, ça y est. Tu vois, là, on est utile. Et c'est ce à quoi on sert, quoi.
Non, je pense que pour beaucoup de gens, ça a été une période horrible. Mais ça fait quand même... Les moments les plus durs, ça fait quand même ressortir aussi le mieux quand même chez beaucoup de monde. Et du coup, tu vois quand même la capacité.
C'est ce que je te disais. Enfin, pour moi, la solidarité, enfin, je trouve ça énorme, quoi. Là, pour le coup, avoir ressenti tous ces élans de solidarité, là, j'ai trouvé ça vraiment chouette.
Du coup, dernière question, parce qu'en plus, je sais que tu dois filer à un dîner. C'est est-ce que il y a un ou des livres, même si tu lis pas beaucoup des livres de management, mais ça peut être d'autres livres dans bien d'autres domaines, ça peut être des BD, ça peut être ce que tu veux, qui t'ont particulièrement marqué, ou en tout cas, moi l'idée c'est un peu les livres finalement que t'aurais vraiment envie de recommander parce que t'estimes que c'est des livres qui toi bah, t'ont un peu changé, t'ont appris et du coup t'aurais envie de les partager.
Alors dans les derniers que j'ai lus, on va dire récemment, donc oui, je lis pas beaucoup de livres de management et tout, hein, donc je suis plutôt roman, et c'est Sophie qui travaille avec moi qui me l'a passé. Il s'appelle Dans la forêt.
Dans la forêt.
Alors je saurais pas te dire le nom de l'auteur parce que je me souviens que de ça. Et en gros, c'est un roman. Ouais, c'est un roman un petit peu sur justement cette période, on va dire l'effondrement un petit peu, hein, dont on parle beaucoup en ce moment. Mais par contre, c'est deux petites filles qui réapprennent à vivre seules au milieu des bois, etc. Et je sais pas ce qui m'a marqué dedans, mais je l'ai trouvé magnifique. Je sais pas, peut-être l'étincelle de vie, tu vois. Qu'il peut se passer n'importe quoi, il reste...
Donc ces deux petites filles qui globalement doivent...
Sont seules au monde.
Complètement et vivre seules, s'auto-suffire. Quoi,
exactement, réapprennent à faire un potager, réapprennent à se protéger, etc. Ouais, ah ouais, magnifique.
Donc, l'indépendance, l'indépendance de ces petites filles. Génial. Bah, écoute, je rechercherai en tout cas le nom de l'auteur et puis je le mettrai dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour le partage. Clémentine, merci mille fois. Si on veut te retrouver sur Internet, bon, déjà, évidemment, on va, puisque maintenant, quand même, Valrhona aussi est disponible dans beaucoup d'endroits pour goûter ces merveilleux chocolats. D'ailleurs, je vais m'en enfiler juste après cette interview.
Tu as tout faire.
Je te remercie. Mais on peut aller voir le site de Valro. Au-delà de ça, toi, à titre perso, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais certaines personnes auraient envie de te contacter?
Bah, moi, sur Insta, je crois que c'est @clemalzial.
Ouais.
Tu le regarderas, ouais. tu le noteras. Et sur LinkedIn aussi.
LinkedIn, donc Clemalzial. Et ouais. Puis sur Insta, top. Génial. Bah, merci mille fois pour ton temps, c'était un plaisir.
Bah, écoute, puis, c'était parfait, un bon moment.
Et bien, c'est le but. À bientôt.
Merci.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaie d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.